Et c'est la revue de presse de Claude Askolovitch.
France Inter, le 7-9.
Heureux de vous revoir, Claude.
Et pardon encore de ne pas avoir vu la lumière rouge.
Ah oui, l'entrée un peu en avance, mais voilà, là vous êtes à l'heure. Ce matin, Claude, on parle d'un homme innocent.
Oui, un homme innocent, Nicolas, qui en dépit de son innocence a passé 4 ans et demi en prison, 1772 jours incarcérés entre la Belgique et la France, soupçonné de terrorisme pour un mot mal traduit, finalement acquitté mais désormais sans femme ni foyer, perdu dans sa liberté, acquitté à perpétuité, dit son avocat. Et le journaliste Christophe Ayad reprend ce mot pour nous dire dans Le Monde l'histoire de Rabah Menicker, qui avant tout cela n'était qu'un homme qui se débrouillait. Un Algérien venu en Europe à 17 ans, qui vivote de petits métiers, il travaille sur les marchés, dans le ramassage d'ordures, il prend les boulots qu'on trouve à la gare de Bruxelles Midi, il trafique aussi à sa mesure. Rabah Menicker vend des parfums, comme on dit, tombés du camion. Parmi ses clients, il y a cet homme nommé Reda Cricket, que Menicker héberge pour lui rendre service le 11 mars 2016. Deux semaines plus tard, Menicker se retrouve encerclé de véhicules de police, menotté, cagoulé. Cricket est un djihadiste qui préparait un attentat en France. Menicker serait son complice. La police a capté une conversation téléphonique entre les deux hommes où Menicker dirait à Cricket que les armes sont arrivées. Mais en arabe, les mots « armes » et « marchandises » se ressemblent, si là, ils ne diffèrent que par la tonalité finale. Menicker parle d'un de marchandises, les parfums. La police et la justice belge finissent par l'admettre, mais à peine Menicker est-il libéré que la France le réclame et le voyage chez nous balloté de prison en prison dans une solitude sans fin. Car les droits communs ne veulent pas parler à un possible terroriste, car les islamistes considèrent Menicker comme un renégat et le menacent parfois cet Algérien qui n'apprécie pas les intégristes qui ont martyrisé son pays. En prison, il apprend le français. Il envoie 600 lettres à une juge d'instruction qui n'en tient aucun compte. Cette magistrate, un jour, a remis en liberté un des futurs assassins du père Hamel à Saint-Étienne de Rouvray. Menicker subit sa prudence, sa retardement. Il se fâche, il énerve tout le monde. Il a été jugé et acquitté au printemps dernier. Le parquet n'a même pas fait appel. Mais sa requête en réparation ne sera pas examinée, lis-je, avant un an ou deux. Sur le site de l'Obs, l'écrivain Emmanuel Carré raconte trois hommes qui, pour l'instant, ne sont pas innocents, puisqu'ils font partie des accusés du procès des attentats du 13 novembre 2015. Mais Abdallah Choua, Hamza Attou et Ali Oulkadi, trois pauvres hères de Molenbeek, semblent assez insignifiants pour comparaître libres. Ils sont en suspension, se demandent s'ils doivent dire à leurs enfants pourquoi ils sont en France. Aux audiences, ils voudraient dire aux familles des victimes qu'ils n'y sont pour rien. Carrère raconte qu'un jour où il parlait avec Oulkadi dans un couloir du palais de justice, une dame s'est approchée, l'écrivain ne se souvenait pas d'elle. Elle était partie civile, elle était venue témoigner avec ses petits-enfants. Oulkadi a glissé, oui, Nino et Marius. La dame lui a souri et Carrère poursuit. Une lueur de joie pure a éclairé le visage d'Ali Oulkadi et il a répété Nino et Marius avec douceur. Comme si les noms de ces petits garçons dont le père a été assassiné au Bataclan étaient ceux de ses propres enfants et qu'on lui accordait fugitivement, peut-être par erreur, mais c'était déjà ça, le droit de porter leur deuil.
On parle aussi d'un pardon ce matin.
Que demande un pays qu'on penserait innocent et pourtant le Figaro raconte un remords suédois. Le traitement infligé au peuple des Samis, des éleveurs autochtones de Rennes en Laponie, des Samis qui n'étaient pas chrétiens et donc leur coutume était l'œuvre du diable et ils allaient contaminer la race suédoise. Ainsi parlait-on il y a un siècle, quand un institut national de biologie raciale qui inspirerait les nazis allemands pillait des tombes pour étudier les crânes et ossements de la race inférieure. L'église luthérienne qui en Suède se confondait avec l'État captait et convertissait les enfants. En novembre dernier, dans une cérémonie à la cathédrale d'Uppsala, l'église de Suède a demandé pardon aux représentants de la communauté Sami, mais l'église possède toujours des hectares de forêts qui étaient autrefois des territoires de chasse. En Pologne, ça se passe aujourd'hui. Ouest-France nous raconte que le pouvoir conservateur veut mettre en place l'an prochain un registre des grossesses, un fichier centralisé que chaque médecin de chaque femme enceinte devra abonder. Le prétexte est un bon suivi médical, mais les polonaises pensent qu'il s'agit surtout de repérer plus facilement les avortements qui, depuis un an, sont passibles, sauf viol, inceste ou danger pour la mère, de 5 ans de prison. Les militantes de l'avortement appellent les femmes à envoyer au ministre de la Santé des photos de protections hygiéniques usagées.
Et on parle enfin de tatouages.
Et vous lisez dans Libération que les tatoueurs français angoissent car une réglementation européenne va bannir en janvier des couleurs des pigments dont ils usent couramment mais qui seraient cancérigènes. Les tatoueurs disent qu'ils sont toujours régulés eux-mêmes. Ils parlent de clandestinité. La loi nous opprime-t-elle? Le Parisien nous avertit contre les conducteurs sans permis qui sont plus de 770 000 et nous dit aussi qu'à Koh-Lanta, mon Dieu, on a beaucoup triché, on s'est beaucoup sustenté. Je lis dans l'Est éclair qu'autrefois en France on prisait les fontaines au radium qui rendait l'eau radioactive, c'était censé être bon pour nous. Un siècle plus tard, des ingénieurs ont décontaminé à la lingette une de ces fontaines récupérée par un couple d'Alsaciens. Elle va finir au musée Curie. À Rouen, Paris-Normandais vibre pour les hockeyeurs sur glace qui sont en Finlande à la Nokia Arena de Tampere à la recherche d'une qualification pour les demi-finales de la Champions Hockey League. Et ce match a des parfums du football d'il y a longtemps, quand en Coupe d'Europe nous étions des enfants courageux. La Finlande, c'est la quintessence de la compétition, quand nos dragons de Rouen, eux, ont l'effectif plus court et se bardent de courage. Enfin, dans le journal de Saône-et-Loire, nous fixe un bel homme aux yeux laser et tendres qui caresse un caprin. Pierre-Louis Bouteloup, ouvrier agricole d'habitude introverti, force sa nature et se présente au concours Miss et Mister France Agricole. Une page Facebook, mes enfants, permet de cliquer et de voter pour lui.
Merci Claude pour cette revue de presse.